C'est le journal de Bernadette Chamonas. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Passer son permis dès 17 ans, ce sera possible et dès lundi. Première fusée du dispositif annoncé par le ministre de l'Intérieur. À terme, un examen moins long, moins cher. Détails de la réforme et réaction de la prévention routière. Est-ce vraiment bon pour la sécurité? Sécheresse, c'est l'alerte générale. Deux tiers des départements français touchés par les restrictions d'eau. Comment gérer la pénurie? Exemple du bassin Adour-Garonne. En Guyane, le combat sans fin de la mission Harpie, la lutte contre l'orpaillage illégal. Trois soldats viennent d'en mourir. Dans ce journal, on verra où en est la conquête de la Lune, 50 ans après le premier pas de Neil Armstrong. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations et à la fin, c'est Champigny qui gagne, vous comprendrez pourquoi.
Et à 7h50, Assa Traoré appelle à une marche 3 ans après la mort de son frère Adama, mort lors de son arrestation dans le Val-d'Oise cette année. Les Gilets jaunes seront dans le cortège pour dénoncer ensemble les violences policières. Assa Traoré sera à notre micro dans 20 minutes.
France Inter.
17 ans au volant pourra désormais passer son permis plus tôt, Bernadette.
Annonce plutôt surprenante, en tous les cas surprise, du ministre de l'Intérieur dans le journal Le Parisien, Christophe Castaner, qui veut aller vite puisqu'il précise que les arrêtés seront applicables dès lundi. Alors actuellement, il faut avoir 17 ans et demi pour passer son permis de conduire, 6 mois de moins à attendre. Ça ne paraît pas être une révolution, mais l'objectif du ministre, Delphine Lefebvre, c'est bien de s'attaquer au parcours du combattant, qui est souvent le permis entre délai d'attente et coût élevé.
D'abord, les futurs conducteurs pourront passer le permis plus tôt, à condition d'opter pour la conduite accompagnée. En 2018, ça représentait environ 285 000 jeunes. Pour cette catégorie spécifique, l'âge minimum était de 17 ans et demi. Eh bien, il va être réduit à 17 ans. Attention, il faudra toujours attendre la majorité pour prendre le volant, trop risqué avant, selon le ministre. Ensuite, les leçons devront coûter moins cher grâce à une formation accrue sur simulateur de conduite. La durée d'apprentissage sur simulateur passe de 5 à 10 heures sur les 20 heures minimum de formation. Une baisse de coût pour les auto-écoles qui sera répercutée sur le prix d'une heure de conduite, 20 à 30% moins cher selon Christophe Castaner. Face à l'augmentation du nombre de voitures automatiques, le gouvernement donne aussi un coup de pouce au permis boîte de vitesse automatique. Un permis qui nécessite 13 heures de formation minimum contre 20 pour un permis classique. Le temps d'attente entre l'obtention du permis boîte auto et la possibilité de le transformer en permis classique passe à 3 mois au lieu de 6, un gain de temps et d'argent.
Moins cher, moins long, mais quid de la sécurité? Attention à ne pas rajouter de la précipitation à la vitesse sur les routes, ce n'est pas très bon. Anne Lavaux, déléguée de la prévention routière.
Si vous passez le permis à 17 ans, entre 17 ans et 18 ans, âge auquel vous pourrez conduire seul, rien ne vous obligera à pratiquer la conduite. Donc on risque d'avoir des jeunes qui à partir de lundi vont passer le permis parce qu'ils ont fait la conduite accompagnée depuis 15 ans et demi, ils le passent à 17 ans. Mais ensuite, entre 17 et 18, rien ne les obligera à conduire. Et donc il va y avoir une année entière sans pratique et le jour des 18 ans, la possibilité de conduire. En termes de sécurité routière, pour nous, c'est pas complètement rassurant.
À cette question soulevée par la prévention routière, le ministre répond qu'un bilan sera fait dans 12 mois. Pour l'instant, 18 ans donc reste l'âge pour avoir droit de conduire. Des études menées en Grande-Bretagne montrent une surmortalité chez les conducteurs de 17 ans.
Parcoursup, c'est en progrès, mais peut mieux faire, hein, Bernadette.
À quelques heures de la fin de la procédure principale ce soir, près de 90% des lycéens ont reçu une proposition. 34 000 lycéens restent sans affectation, ils étaient 43 000 en début de semaine. Les commissions d'accès à l'enseignement supérieur dont nous vous avons fait vivre sur France Inter, le travail minutieux, intense, sont là pour les accompagner. Ceux qui ont une proposition doivent la finaliser avant ce soir, 23h59, attention. Hein.
7h34, vous êtes très précise Bernadette.
La suite... À minuit, il sera trop tard.
La suite de votre journal avec la sécheresse, alerte générale en France.
Les deux tiers des départements français, 70 sont concernés par les restrictions d'eau, 22 sont même en alerte rouge, tout prélèvement d'eau qui n'est pas essentiel est interdit, y compris pour l'agriculture. Le Grand Sud-Ouest est l'une des régions les plus touchées. Plongeons, si j'ose dire, dans le détail, voyons comment ça se passe avec vous, Sandy Dauphin, dans le bassin Adour-Garonne, comment on gère la pénurie?
Les 120 000 km de cours d'eau du bassin Adour-Garonne irriguent 26 départements de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Aujourd'hui, seuls 6 départements n'ont pas de restriction d'eau. Il a fallu procéder à des lâchers d'eau de barrage beaucoup plus tôt dans la saison que d'habitude. Guillaume Choisy, directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne, établissement public chargé de protéger la ressource.
Actuellement, le bassin Adour-Garonne, avec une réalimentation sur la Garonne, par exemple, chaque jour de 600 000 m3 grâce aux réserves de montagne hydroélectriques, on arrive au niveau de débit minimum à Toulouse, à Agen et à Bordeaux, on est au-dessous aujourd'hui du débit minimum de la Garonne pour assurer un bon état des eaux et les différents usages de l'eau.
Avec le réchauffement climatique, les sécheresses vont devenir plus fréquentes, les déficits d'eau aussi.
Sur un bassin comme le bassin d'Ourgaronne, on estime à un horizon 2050 1,2 milliard le déficit de mètres cubes de l'eau par rapport à une situation actuelle. Et cela, ça représente la moitié des usages de l'eau annuels. C'est-à-dire qu'on consomme 2,4 milliards de mètres cubes sur le bassin et on va manquer la moitié de cet usage-là.
Les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont lancé une feuille de route pour économiser l'eau, accompagner de nouvelles pratiques agricoles, végétaliser ou encore restaurer les zones humides, ces réservoirs d'eau naturelle. Reste à trouver les financements.
Sandy Dauphin, une sécheresse qui va être encore aggravée par le nouvel épisode de canicule annoncé pour les trois premiers jours de la semaine prochaine. Le projet de loi énergie-climat adopté à une large majorité au Sénat, 227 voix pour, 16 contre. Objectif du texte, neutralité carbone à l'horizon 2050, fermeture des dernières centrales à charbon en 2022 et un dispositif progressif de rénovation énergétique de ce qu'on appelle les passoires thermiques. 7 millions de ménages seraient concernés. Sénat et Assemblée nationale doivent maintenant trouver un terrain d'entente pour le texte.
Trois militaires français ont payé de leur vie la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane.
Ils avaient 27, 30, 31 ans. Tous appartenaient au 19e régiment du génie de Besançon, où l'émotion est immense. Ils ont été intoxiqués par les émanations alors qu'ils déposaient des charges explosives pour détruire des installations souterraines. Des centaines de militaires, de forces de l'ordre sont mobilisés pour cette opération Harpie que l'on peut résumer, Thibault Lefebvre, mission périlleuse, territoire immense, combat sans fin.
D'un côté, environ 10 000 garimpeiros, des chercheurs d'or brésiliens ou surinamais, souvent très pauvres et sans papier, et qui creusent sans cesse des puits pour collecter quelques pépites. Et de l'autre, les 500 soldats, douaniers, gendarmes ou policiers de la mission Harpie, qui essaient tant bien que mal d'empêcher l'extraction illégale, car l'enjeu est économique, l'or est prélevé sur le territoire français, mais surtout écologique. L'orpaillage nécessite l'utilisation d'un arsenal chimique qui détruit la nature. C'est ce qu'a constaté en avril dernier le député LREM Christophe Lejeune. Il est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées et c'est à ce titre qu'il a accompagné des militaires en mission. Il est au micro France Bleu de Jean-François Fernandez.
Lorsque vous survolez la Guyane, vous vous rendez compte que l'eau est polluée au cyanure et derrière maintenant sur le fleuve commencent à apparaître des enfants qui naissent handicapés parce que leurs mamans ont consommé de l'eau polluée au cyanure et à d'autres produits toxiques. Les militaires et les gendarmes œuvrent au quotidien pour la défense de nos populations.
Une mission qui a permis l'année dernière de saisir et détruire du matériel sur 765 sites clandestins. Selon le dernier recensement de l'armée, il restait il y a quelques mois 132 sites aurifères illégaux.
Thibault Lefebvre, un petit pas pour l'homme maintenant, un grand pas pour l'humanité.
Phrase mythique bien sûr de Neil Armstrong quand il pose le pied sur la Lune il y a 50 ans. Mais l'humanité, qu'a-t-elle fait justement de cette conquête spatiale? Où en est-elle de ses missions? Valérie Crova, la course lunaire, un temps suspendu, reprend.
Parmi les pays qui se sont fixés pour objectif la Lune, la Chine. Elle compte envoyer sa première mission habitée dans une dizaine d'années. Pékin a investi des milliards d'euros dans son programme spatial avec de beaux succès. Début 2019, une sonde a atterri sur la face cachée de la Lune, une première dans l'histoire de l'exploration spatiale. Et d'ici la fin de l'année, un engin chinois devrait rapporter sur Terre des échantillons lunaires. Car la Chine entend rivaliser avec les États-Unis qui veulent aussi renvoyer des équipements sur la Lune en 2020 avant le retour d'astronautes dont une femme prévue d'ici 2024. L'Inde espère devenir quant à elle la quatrième puissance à faire allunir un engin après les États-Unis, la Russie et la Chine. Annulée en début de semaine pour un problème technique, la mission Chandrayaan 2 devrait décoller ce lundi avec à son bord un robot mobile qui doit se poser près du pôle sud de la Lune pour y chercher de l'eau.
Valérie Creva, Algérie, Sénégal, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match se joue au Caire, donc en Égypte. Mais en France, l'épicentre de l'événement, eh bien, ce sera Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Car les deux sélectionneurs, figurez-vous, Algérie et Sénégal, y ont passé leur enfance, y ont quasiment tapé dans leur premier ballon, Valentin Dunat.
Le stade Léon Duprat, où Jamel Belmadi a fait ses premiers dribbles, n'a pas changé. C'est un terrain stabilisé, pas loin de sa cité du Bois-l'Abbé. Chérif Chaou le connaît depuis 40 ans, mais à vrai dire, à Champigny, on est tous un peu amis avec Jamel.
Oui, tout le monde se revendique de lui. Tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est de Champigny, tout le monde dit qu'il le connaît, même s'ils ne le connaissent pas forcément intimement, mais c'est, voilà, ça part d'un bon sentiment, c'est la joie, la fierté. C'est quand même un exemple et une image très positive qu'il renvoie pour la ville, et tout le monde vit ce match vit avec énormément d'émotion.
Jamel Belmadi a commencé sa carrière à l'Académica, le club des Portugais. Aliou Cissé, lui, est arrivé du Sénégal à 9 ans et il a joué au Red Star Champigny, devenu le Champigny Football Club. Son président, Mehdi Bouguera.
De ce que je me rappelle de Aliou, c'était quelqu'un de discret. À l'âge de 12 ans, on pensait déjà qu'il avait 20 ans. Je sais pas pourquoi. Il était posé, il avait sa petite copine, sa vie. Nous, on pensait qu'aux conneries, il avait qu'une seule chose en tête, c'était de réussir. Ce qu'il avait prédit pour son avenir, bah, je crois qu'il y est et je crois que c'est pas fini. Je sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas, l'un comme l'autre, hein, c'est un parcours exceptionnel et c'est plus qu'impressionnant.
Et pour les féliciter comme il se doit, ces deux sélectionneurs pourraient venir ici à la rentrée, car comme le précise la mairie avec cette formule, quel que soit le vainqueur, c'est Champigny qui gagne.
À 21h, coup d'envoi de cette finale Sénégal-Algérie avec un dispositif sécurité renforcé dans les grandes villes de France pour que la fête reste une fête, quel que soit le vainqueur. Le vainqueur, justement, il y en a un en natation, une médaille d'or au bout de l'effort au championnat du monde de natation en Corée du Sud. Le français Axel Raymond conserve son titre dans l'épreuve du 25 km en eau libre. 5 heures de course dans des conditions terribles, vagues, vent et pluie. Quant à Julien Alaphilippe, lui, il est toujours en or, en maillot d'or. Le gardera-t-il à l'issue du contre-la-montre aujourd'hui à Pau? C'est à suivre, bien sûr. C'est un des événements sportifs de la journée.
Mais Amélie. C'était le journal de Bernadette Chamonaz. Merci beaucoup, Bernadette.